the Conference Center at Temple Square in Salt Lake City.
Ici, le centre de conférence de Temple Square à Salt Lake City. Vous assistez à la 183e conférence générale d'octobre de l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours, avec des orateurs choisis parmi les autorités générales et les officiers généraux de l'Église. La musique de cette session est interprétée par un chœur familial composé de membres de pieux de Roy, Canesville, Hooper et West Haven en Utah. Cette émission est diffusée à titre de service public par Bonneville Distribution. Toute reproduction, enregistrement, transcription ou autre utilisation de cette émission sans autorisation écrite est interdite.
President Dieter F. Uchtdorf.
Dieter F. Uchtdorf, deuxième conseiller dans la première présidence de l'Église, dirigera cette session. Mes chers frères et sœurs, nous vous souhaitons la bienvenue cet après-midi à la deuxième session générale de la 183e conférence générale d'octobre. Thomas S. Monson, qui préside cette conférence, m'a demandé de diriger cette session. Nous saluons toutes les personnes qui sont ici présentes ou qui suivent la conférence au moyen de la télévision, de la radio ou de l'Internet, et à celles qui sont réunies dans les centres de pieux dans diverses parties du monde où elle est diffusée par satellite. La musique de cette session sera interprétée par un chœur familial composé de membres de pieux situés à Roy, Kennesville, Hooper et West Haven en Utah, sous la direction de Jane Fjellstedt avec Linda Margetts à l'orgue. Le chœur ouvrira cette session en chantant On This Day of Joy and Gladness, après quoi Paul V. Johnson des 70 fera la prière d'ouverture. Henry B. Ehring présentera ensuite le nom des officiers généraux et les 70 interrégions de l'Église pour un vote de soutien.
Oh. Notre Père Céleste bien-aimé, nous venons devant toi au début de cette session de conférence avec une profonde reconnaissance pour nos bénédictions. Merci Père pour les missionnaires à plein temps autour du monde et prions que tu puisses les préserver, les bénir, chacun d'eux. Nous sommes vraiment reconnaissants pour d'être présents à cette session. Nous prions pour ceux qui vont s'adresser à nous et chanter pour nous, pour produire la musique, que nous puissions être édifiés. Père, aide-nous à ouvrir notre esprit et nos cœurs au message et à l'inspiration qui peuvent être les nôtres ce jour, au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen.
The 183rd Semiannual General Conference, Sustaining of Authorities.
Le soutien des autorités de la 183e Conférence Générale. Il nous est proposé de soutenir Thomas Spencer Monson comme prophète, voyant et révélateur et président de l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours. Henry Bennion Ehring comme premier conseiller dans la première présidence et Dieter Friedrich Urdorf comme deuxième conseiller dans la première présidence. Ceux qui sont d'accord peuvent le manifester. S'il y a des avis contraires, veuillez le manifester. Il nous est proposé de soutenir Boyd Kenneth Packer comme président du Collège des Douze Apôtres et les membres suivants du dit collège. Boyd K. Packer, L. Tom Perry, Russell M. Nelson, Dallin H. Oaks, M. Russell Ballard, Richard G. Scott, Robert D. Ailes, Jeffrey R. Holland, David A. Bednar, Quentin L. Cook, D. Todd Christopherson, et Neil L. Anderson. Que ceux qui sont d'accord le manifestent. S'il y a des avis contraires, veuillez le manifester. Il nous est proposé de soutenir les conseillers dans la première présidence et les douze apôtres comme prophètes, voyants et révélateurs. Que tous ceux qui sont d'accord le manifestent. Les avis contraires, s'il y en a, par le même signe. Et il nous est proposé de relever John B. Dixon, Paul E. Kolliker et F. Michael Watson de leur appel de membres du premier collège des 70 et de les désigner comme autorité générale émérite. Il nous est aussi proposé de relever Ken D. Watson de son appel au deuxième collège des 70. Nous saluons la présence et remercions César H. Hooker et Craig T. Wright qui ont été relevés de leur appel de 70 d'interrégion. Que ceux d'entre vous qui veulent se joindre à nous pour exprimer le remerciement à ses frères pour leur excellent service le manifestent. Il nous est proposé de soutenir comme nouveau 70 d'interrégion Julio A. Angulo, Peter F. Evans et Gennady N. Podvodov. Que tous ceux qui sont d'accord le manifestent. Les avis contraires, s'il y en a. Il nous est proposé de soutenir Randall L. Reed comme deuxième conseiller dans la présidence générale des jeunes gens. Ceux qui sont d'accord peuvent le manifester. S'il y a des avis contraires, veuillez le manifester. Il nous est proposé de soutenir les autres autorités générales 70 d'interrégion et présidence générale d'auxiliaires actuelles. Que ceux qui sont d'accord le manifestent. S'il y a des avis contraires, veuillez le manifester. Merci, frères et sœurs, de votre vote de soutien, de votre foi et de vos prières en notre faveur.
Thank you, President Ehring. The choir will now favor us.
Merci, Président Ehring. Le chœur va maintenant interpréter « Je sais que mon Seigneur m'aime ». Après ce chant, nous aurons le plaisir d'entendre Boyd K. Packer, président du Collège des Douze Apôtres. Il sera suivi de D. Todd Christopherson, du Collège des Douze Apôtres, et de S. Gifford Nielsen, des 70.
short time ago, I sealed a young couple in the temple.
Récemment, j'ai scellé un jeune couple dans le temple. Ce couple était gardé, digne d'arriver à ce jour merveilleux, où un fils et une fille quittent la maison de leur jeunesse et deviennent mari et femme. En cette occasion sacrée, ils étaient purs. Le moment venu, ils commenceront à élever des enfants à eux, selon le modèle défini par notre Père Céleste. Leur bonheur et le bonheur des générations futures dépend de l'application de ces principes donnés par le Sauveur et expliqués dans ses Écritures. De nos jours, les parents se demandent s'il y a un endroit sûr pour élever les enfants. Il y a un endroit sûr. C'est dans un foyer centré sur l'Évangile. Dans l'Église, nous nous concentrons sur la famille et nous recommandons aux parents, où qu'ils soient, d'élever leurs enfants dans la justice. L'apôtre Paul a prophétisé et nous a prévenu que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irreligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Il a ajouté, « Éloigne-toi de ces hommes-là. » Paul a aussi prophétisé, « Les hommes méchants et imposteurs avanceront toujours plus dans le mal, égarant les autres et égarés eux-mêmes. » Ces versets sont des avertissements. Ils nous montrent les comportements à éviter. Nous devons toujours être attentifs et diligents. Nous pouvons examiner chacune de ces prophéties et constater que ces conditions existent à notre époque et que nous devons nous en préoccuper. Des temps difficiles, maintenant. Nous vivons en des temps très difficiles. Amis de l'argent, fanfarons, hautains, ils sont tous là et parmi nous. Blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irreligieux, insensibles, ils sont tous présents, eux aussi, déloyaux, calomniateurs, et ainsi de suite. On peut tous les cocher dans la liste au vu de ce qui se passe autour de nous. Moroni a aussi parlé de la méchanceté de notre époque quand il a prévenu « Lorsque vous verrez ces choses venir parmi vous, prenez conscience de votre situation affreuse. C'est pourquoi moi, Moroni, j'ai pour commandement d'écrire ces choses, afin que le mal soit aboli et que puisse venir le moment où Satan n'aura aucun pouvoir sur le cœur des enfants des hommes, mais qu'il soit persuadé de faire continuellement le bien afin de venir à la source de toute justice et d'être sauvé. » Les descriptions que Paul et Moroni font de notre époque sont si exactes qu'on ne peut pas les ignorer. Pour beaucoup, cela peut être très dérangeant et même décourageant. Néanmoins, quand je pense à l'avenir, je suis submergé de sentiments optimistes. Dans sa révélation, en plus de la liste des épreuves et des problèmes, Paul nous dit aussi ce que nous pouvons faire pour nous protéger. Toi, demeure dans les choses que tu as apprises et reconnues certaines, sachant de qui tu les as apprises. Dès ton enfance, tu connais les saintes lettres qui peuvent te rendre sage à salut par la foi en Jésus-Christ. Les Écritures détiennent les clés de la protection spirituelle. Elles contiennent la doctrine, les lois et les ordonnances qui amènent chaque enfant de Dieu à avoir le témoignage de Jésus-Christ, que Jésus-Christ est son Sauveur et son Rédempteur. À travers des années de préparation, un immense effort a été fait pour publier les Écritures dans toutes les langues, avec des notes en bas de page et des références croisées. Nous voulons les rendre accessibles à quiconque désire apprendre. Elles nous enseignent où aller et quoi faire. Elles offrent espoir et connaissance. Il y a des années, S. Dilworth Young, des 70, m'a donné une leçon sur la lecture des Écritures. Un pieu souffrait de tension parmi ses membres et ils avaient besoin de conseils. J'ai demandé au président Young, que devrais-je dire? Il a simplement répondu, dites-leur de lire les Écritures. J'ai demandé, lesquelles? Il a répondu, ce n'a pas d'importance. Dites-leur, par exemple, d'ouvrir le livre de Mormon et de commencer à le lire. Le sentiment de paix et d'inspiration ne tardera pas à apparaître et la solution se présentera d'elle-même. Intégrez la lecture des Écritures à vos habitudes quotidiennes et les bénédictions suivront. Il y a dans les Écritures une voie d'avertissement, mais aussi un grand enrichissement. Si le langage des Écritures vous semble d'abord étrange, continuez de lire. Vous ne tarderez pas à prendre conscience de la beauté et du pouvoir qui se trouvent dans ces pages. Paul a dit, « Toute Écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. » Vous pouvez vérifier cette promesse par vous-même. Nous vivons en des temps difficiles. Néanmoins, nous pouvons trouver espoir et paix pour notre famille et pour nous. Les gens qui vivent dans le chagrin et qui se demandent désespérément si l'on va pouvoir sortir leur enfant de là où le monde l'a emmené ne doivent jamais abandonner. Ne crains pas, crois seulement. La justice est plus puissante que la méchanceté. Les enfants à qui l'on enseigne tôt à comprendre les Écritures sauront quel chemin prendre et seront davantage enclins à y rester. Ceux qui s'égarent auront la capacité de revenir et, avec de l'aide, retrouveront leur chemin. Les fils de Mosiah ont combattu l'Église pendant un temps, mais se sont plus tard repentis et ont vécu un changement radical. Dans l'Allemagne, nous lisons, ces fils de Mosiah étaient devenus forts dans la connaissance de la vérité, car ils étaient des hommes d'une saine intelligence. Ils avaient sondé diligemment les Écritures afin de connaître la parole de Dieu. Joseph F. Smith avait 6 ans quand son père, Hiram, a été tué à la prison de Carthage. Plus tard, Joseph a traversé les plaines avec sa mère, veuve. À 15 ans, il a été appelé en mission à Hawaï. Il s'est senti perdu et seul et a dit, « J'étais très oppressé. J'avais l'impression d'être si dévalorisé dans mon état de pauvreté, mon manque d'intelligence et de connaissances, n'étant qu'un gamin, que j'osais à peine regarder les gens en face. » Alors qu'il méditait sur cette situation difficile une nuit, le jeune Joseph a rêvé qu'il était en voyage, courant aussi vite qu'il le pouvait. Il portait un petit paquet. Enfin, il est arrivé à un manoir somptueux qui était sa destination. En approchant, il a vu une pancarte où était écrit « Bain ». Il y est rapidement entré et s'est lavé. Il a ouvert son petit paquet et a trouvé des vêtements blancs propres. Une chose, dit-il, que je n'avais pas vue depuis longtemps. Il les a mis et s'est précipité vers la porte du manoir. J'ai frappé, dit-il, et la porte s'est ouverte. L'homme qui se tenait devant moi était Joseph Smith, le prophète. Il m'a regardé d'un air un peu réprobateur. Et ses premiers mots ont été, Joseph, tu es en retard. Pourtant, j'ai répondu avec confiance. Oui, mais je suis propre. Je suis propre. Il peut en être de même pour chacun de nous. Si vous avez l'habitude de la foi et de l'activité dans l'Église, restez-y et respectez vos alliances. Continuez jusqu'à ce que les bénédictions du Seigneur vous parviennent et que le Saint-Esprit devienne une force vive dans votre vie. Si vous avez des habitudes qui vous éloignent du chemin décrit dans les Écritures, je vous assure que vous pouvez revenir. Jésus-Christ a prescrit une méthode très claire pour nous repentir et trouver la guérison. Le remède à la majorité des erreurs est de rechercher le pardon par la prière personnelle. Toutefois, il y a certaines maladies spirituelles, en particulier celles en rapport avec les violations de la loi morale, qui requièrent absolument l'aide et le traitement d'un médecin spirituel qualifié. Il y a des années, une jeune fille et son vieux père sont entrés dans mon bureau. Elle avait fait plusieurs centaines de kilomètres avec lui pour trouver un remède à la culpabilité qu'il ressentait. Jeune homme, il avait commis une faute grave. Et avec l'âge, ce souvenir lui était revenu en tête. Il ne pouvait pas se défaire du sentiment de culpabilité. Il ne pouvait pas revenir en arrière et annuler le problème de sa jeunesse par lui-même. Mais il pouvait commencer là où il était. Et avec de l'aide, effacer la culpabilité qu'il avait accompagnée toutes ces années. J'étais reconnaissant qu'une fois que des principes tirés du Livre de Mormon lui ont été enseignés, cela a été comme si un poids énorme lui était retiré des épaules. Lorsque sa fille et lui ont repris l'interminable chemin du retour, le vieil homme avait laissé derrière lui la culpabilité de ses transgressions passées. Si vous prenez conscience de votre situation affreuse et désirez retrouver une pleine santé spirituelle, allez voir votre évêque. Il détient les clés et peut vous aider sur le chemin du repentir. Le repentir est individuel, tout comme le pardon. Le Seigneur exige uniquement que l'on se détourne du péché. Et il pardonnera leur iniquité et ne se souviendra plus de leur péché. Une fois le processus du repentir terminé, vous comprendrez la signification de la promesse d'Ésaïe sur l'expiation. Venez et plaidons, dit l'Éternel. Si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont rouges comme la pourpre, ils deviendront comme la laine. Tout comme on peut effacer la craie d'un tableau, de même avec un repentir sincère, les effets de notre transgression peuvent être effacés par l'expiation de Jésus-Christ. Cette promesse s'applique dans tous les cas. L'Évangile nous enseigne à être heureux, à avoir la foi, non la crainte, à trouver l'espoir et à vaincre le désespoir, à quitter les ténèbres et à nous tourner vers la lumière de l'Évangile éternel. Paul et d'autres nous ont avertis des épreuves de notre époque et des jours encore à venir. Mais la paix peut s'installer dans le cœur de quiconque se tourne vers les Écritures et libère les promesses de protection et de rédemption qui y sont enseignées. Nous invitons chacun à se tourner vers le Sauveur Jésus-Christ et ses enseignements rapportés dans l'Ancien Testament, le Nouveau Testament, le Livre de Mormon, les Doctrines Alliance et la Perle de Grand Prix. Je témoigne avec certitude que les Écritures sont une clé pour notre protection spirituelle. Je témoigne aussi du pouvoir guérisseur de l'expiation de Jésus-Christ, que par son intermédiaire, tous seront sauvés. L'Église du Seigneur a été rétablie sur terre. Je témoigne de la vérité de l'Évangile. Je suis témoin de lui. Au nom de Jésus-Christ, Amen.
Depuis la nuit des temps, les sociétés se sont appuyées sur la force morale des femmes. Bien que ce ne soit pas la seule influence positive à l'œuvre dans la société, Le fondement moral qu'elle pose s'est avéré particulièrement utile au bien commun. Peut-être qu'en raison de son omniprésence, cette contribution des femmes est souvent sous-estimée. Je désire exprimer ma reconnaissance pour l'influence des femmes qui mènent une vie juste. Mettre en évidence certaines des philosophies et des tendances qui menacent leur force et leur place, et leur demander de cultiver l'influence morale innée chez elles. Les femmes naissent dotées d'une certaine vertu, d'un don divin qui les rend aptes à inspirer des qualités telles que la foi, le courage, l'empathie et le raffinement dans les relations et dans les cultures. Quand il loue la foi sincère qu'il a trouvée en Timothée, Paul fait remarquer qu'elle habita d'abord dans son aïeul Loïs et dans sa mère Eunice. Il y a bien des années, alors que je vivais au Mexique, j'ai pu observer moi-même ce que Paul voulait dire. Je me souviens d'une jeune mère en particulier, parmi les nombreuses femmes de l'Église du Mexique, dont la foi en Dieu embellit la vie si naturellement qu'elle ne semble guère s'en apercevoir. Il émanait de cette femme charmante une autorité morale provenant de sa bonté, qui exerçait une influence bénéfique sur tout le monde autour d'elle. Son mari et elle sacrifiaient beaucoup de plaisir et de bien à leurs priorités plus élevées, apparemment sans hésitation. Sa capacité d'accomplir des exploits pour édifier ses enfants, s'adapter et maintenir l'équilibre était presque surhumaine. Elle avait de nombreuses responsabilités et ses tâches étaient souvent répétitives et banales. Pourtant, elle conservait toujours une belle sérénité, le sentiment de faire l'œuvre de Dieu. Tout comme le Sauveur, cela l'avait anoblie de faire du bien aux autres par le service et le sacrifice. Elle était l'amour incarné. L'influence morale des femmes, particulièrement celle de ma mère et de ma femme, m'a remarquablement béni. Anna Daines fait partie des femmes pour qui j'ai de la reconnaissance. Anna, Henri, son mari et leurs quatre enfants faisaient partie des pionniers de l'Église au New Jersey, aux États-Unis. À partir des années 1930, alors qu'Henri était étudiant en médecine à l'Université Rogers, Anna et lui ont œuvré inlassablement auprès d'organisations scolaires et civiques à Metuchen, où ils habitaient, pour surmonter les préjugés profondément ancrés contre les Mormons et pour faire de cette commune un endroit où tous les parents pourraient mieux élever leurs enfants. Anna, par exemple, devint bénévole au YMCA, une association de jeunes chrétiens, et elle s'y rendit indispensable. En moins d'un an, elle devint présidente de l'auxiliaire des mères. Puis on lui demanda de se présenter à l'un des trois postes de femmes du conseil d'administration du YMCA. Elle gagna sans opposition et se joignit ainsi au conseil même qui, seulement quelques années auparavant, avait refusé de laisser les membres de l'Église se réunir dans son bâtiment. Quand j'étais adolescent, ma famille emménagea dans la paroisse de New Brunswick. Sœur Daines me remarqua et exprima souvent sa confiance en mes capacités et mon potentiel, ce qui me permit d'avoir de plus grandes ambitions, supérieures à ce qu'elles auraient été sans ses encouragements. Un jour, grâce à un avertissement attentionné et opportun de sa part, j'ai évité une situation qui m'aurait certainement causé des regrets. Bien qu'elle ne soit plus là, l'influence d'Anna Daines continue à se manifester et à se refléter dans la vie de ses descendants et d'innombrables autres personnes, dont moi. Adina Warnick Swanson, ma grand-mère, m'a enseigné à être consciencieux dans mes responsabilités de la prêtrise. Elle m'a incité à apprendre par cœur les bénédictions du pain et de l'eau de la Sainte Cène, m'expliquant qu'ainsi je pourrais les exprimer avec une meilleure compréhension et davantage de sentiments. Sa façon de soutenir mon grand-père, patriarche de pieux, a engendré en moi le respect des choses sacrées. Grand-maman Swanson n'a jamais appris à conduire une voiture, mais elle a pu enseigner aux garçons comment être des hommes de la prêtrise. L'influence morale d'une femme ne se rend nulle part plus puissamment ni n'est employée de façon plus bénéfique qu'au foyer. Il n'y a pas de meilleur cadre pour élever la génération montante que la famille traditionnelle où le père et la mère œuvrent en harmonie, afin de pourvoir aux besoins de leurs enfants, de les instruire et de les éduquer. Là où cet idéal n'existe pas, les gens s'efforcent de reproduire ces avantages du mieux qu'ils le peuvent, selon leur situation personnelle. Quoi qu'il en soit, une mère peut exercer une influence que personne d'autre, ni aucune autre relation ne peut égaler. Le pouvoir de son exemple et de ses enseignements permet à ses fils d'apprendre à respecter la femme et d'intégrer la discipline et des principes moraux élevés à leur vie personnelle. Ses filles apprennent à cultiver leur vertu personnelle et à défendre ce qui est juste encore et encore, quelle que soit son impopularité. L'amour et les attentes élevées d'une mère amènent ses enfants à agir de façon responsable, sans excuse, à considérer les études et le développement personnel avec sérieux et à contribuer sans cesse au bien-être de toutes les personnes qui les entourent. Un jour, Neil Maxwell a demandé, « Lorsque l'histoire véritable de l'humanité sera pleinement révélée, y reconnaîtra-t-on les échos des tirs d'artillerie ou la mélodie formatrice des berceuses ? Les militaires signant de grands armistices ou les femmes établissant la paix dans les foyers et les quartiers ? Ce qui s'est produit dans les berceaux et les cuisines se révélera-t-il être plus déterminant que ce qui s'est produit dans les parlements ? Le rôle de la femme dans la création de la vie est des plus sacrés. Nous savons que notre corps physique a une origine divine et qu'une naissance physique et une renaissance spirituelle doivent avoir lieu pour que nous puissions atteindre les plus hautes demeures dans le royaume céleste de Dieu. Ainsi, les femmes jouent un rôle essentiel, parfois au risque de leur propre vie, dans l'œuvre et la gloire de Dieu, réaliser l'immortalité et la vie éternelle de l'homme. En tant que grand-mères, mères et modèles, les femmes ont été les gardiennes de la source de la vie, enseignant à chaque génération l'importance de la pureté sexuelle, de la chasteté avant le mariage et de la fidélité dans le mariage. C'est ainsi qu'elles ont exercé une influence civilisatrice dans la société, qu'elles ont fait ressortir ce qu'il y a de meilleur chez les hommes, qu'elles ont créé des cadres sains dans lesquels élever des enfants équilibrés et en bonne santé. Sœur, je ne veux pas vous louer à l'excès comme nous le faisons parfois dans les discours de la fête des mères qui vous mettent mal à l'aise. Vous n'avez pas besoin d'être parfaite. Je ne prétends pas que vous le soyez, à une exception près qui est assise non loin d'ici en ce moment. Ce que je veux dire, c'est que vous soyez célibataire ou marié, que vous ayez mis des enfants au monde ou non, que vous soyez âgé, jeune ou entre les deux, votre autorité morale est vitale et que peut-être nous avons commencé à considérer cela et vous-même comme une évidence. Il est évident qu'il y a des tendances et des forces à l'œuvre susceptibles d'affaiblir et même d'éliminer votre influence, au grand détriment des personnes, des familles et de la société en général. Je vais en citer trois en manière de mise en garde et d'avertissement. Une philosophie pernicieuse qui mine l'influence morale des femmes est celle qui tend à dévaluer le mariage et le rôle de la femme comme épouse et mère au foyer. Certaines théoriciennes féministes considèrent les tâches ménagères avec le mépris le plus total, affirmant qu'elles dévalorisent les femmes et que les exigences incessantes de l'éducation des enfants sont une forme d'exploitation. Elles tournent en ridicule ce qu'elles appellent les mères professionnelles. C'est injuste et faux. Nous ne dévalorisons pas la valeur de ce que les femmes ou les hommes accomplissent dans quelque entreprise ou carrière digne que ce soit. Mais nous sommes néanmoins conscients qu'il n'y a rien de mieux que la maternité et la paternité dans le mariage. Il n'y a pas de carrière supérieure et aucune somme d'argent, aucune autorité ni aucun succès public ne peut surpasser les récompenses suprêmes de la famille. Quoi qu'une femme puisse accomplir d'autre, son influence morale ne peut être employée de meilleure façon que de celle-là. Les attitudes envers la sexualité humaine menacent l'autorité morale des femmes sur plusieurs fronts. L'avortement, pratiqué pour des raisons de convenance personnelle ou sociale, porte atteinte aux pouvoirs les plus sacrés d'une femme et détruit son autorité morale. Il en est de même de l'immoralité sexuelle et du port de vêtements révélateurs, qui non seulement avilissent les femmes, mais renforcent également le mensonge selon lequel la sexualité de la femme est ce qui définit sa valeur. Il y a longtemps eu une discrimination qui voulait que les femmes soient circonspectes en matière de sexualité tout en excusant l'immoralité masculine. Le caractère injuste de cette discrimination est évident et a été critiqué et rejeté à juste titre. Dans ce rejet, on aurait espéré que les hommes exigeraient de même la même retenue que les femmes. Mais c'est tout le contraire qui s'est produit. Les femmes et les filles sont maintenant incitées à être aussi libertines que les hommes dans l'ancienne discrimination. Là où auparavant, la morale plus stricte des femmes exigeait l'engagement et la responsabilité de la part des hommes, nous avons maintenant des relations sexuelles sans conscience, des familles sans père et une pauvreté grandissante. L'égalité dans le relâchement sexuel dépouille tout simplement les femmes de leur influence morale et avilit toute la société. Dans ce marché de dupes, ce sont les hommes qui sont libérés et les femmes et les enfants qui souffrent le plus. Un troisième sujet de préoccupation provient des personnes qui, au nom de l'égalité, veulent effacer toutes les différences entre le masculin et le féminin. Souvent, cela se traduit par une incitation des femmes à adopter des traits de caractère plus masculins, être plus agressives, plus dures et plus vindicatives. Dans les films et les jeux vidéo, il est maintenant habituel de voir des femmes dans des rôles terriblement violents, laissant des corps sans vie et la destruction après leur passage. Cela glace le sang de voir des hommes dans de tels rôles, et cela ne l'est certainement pas moins quand ce sont des femmes qui se livrent à la violence et en souffrent. Margaret Di Nado, ancienne présidente générale des jeunes filles, a enseigné « Le monde compte suffisamment de femmes dures, nous avons besoin de femmes tendres. Il y a assez de femmes brutales, nous avons besoin de femmes bonnes. Il y a assez de femmes grossières, nous avons besoin de femmes raffinées. Il y a assez de femmes célèbres et riches, nous avons besoin de plus de femmes qui ont la foi. Nous voyons assez de cupidité, nous avons besoin de plus de bonté. Nous voyons assez de vanité. Nous avons besoin de plus de vertu. Nous avons assez de popularité. Nous avons besoin de plus de pureté. En estompant les différences féminines et masculines, nous perdons les dons distincts et complémentaires des hommes et des femmes qui, ensemble, constituent un plus grand tout. Aujourd'hui, je demande aux femmes et aux filles de protéger et de cultiver la force morale qui est en elles. Préservez cette vertu innée et ces dons uniques que vous apportez en venant au monde. Votre intuition vous pousse à faire le bien et à être bonne, et en suivant le Saint-Esprit, votre autorité et votre influence morale grandiront. Aux jeunes filles, je dis, ne perdez pas cette force morale avant même de la posséder pleinement. Veillez particulièrement à parler correctement, sans employer de mots grossiers. À ce que votre tenue soit pudique, pas vaniteuse. Et à ce que votre conduite reflète la pureté, non l'immoralité. Vous ne pouvez pas élever les autres à la vertu d'un côté si vous cultivez le vice de l'autre. Sœurs, dans tous vos rapports, c'est votre relation avec Dieu, la source de votre force morale, que vous devez toujours mettre en premier dans votre vie. Souvenez-vous que le pouvoir de Jésus a résulté de sa dévotion exclusive à la volonté du Père. Il ne s'est jamais écarté de ce qui plaisait à son Père. Efforcez-vous d'être ce genre de disciple du Père et du Fils, et votre influence ne faiblira jamais. Et n'ayez pas peur d'exercer cette influence sans crainte ni sans vous excuser. Soyez toujours prête à vous défendre devant quiconque, comme femme et enfant. Vous demandez raison de l'espérance qui est en vous. Prêchez la parole, insistez en toute occasion, favorable ou non. Reprenez, censurez, exhortez avec toute douceur et en instruisant. Élevez vos enfants dans la lumière et la vérité. Enseignez-leur à prier, à marcher en droiture devant le Seigneur. Que personne ne mésinterprète volontairement ces exhortations aux femmes. En louant et en encourageant la force morale chez les femmes, je ne dis pas que les femmes, les hommes et les garçons sont en quelque sorte libérés de leur propre devoir de défendre la vérité et la justice, que leur responsabilité de servir, de se sacrifier et d'aider en est quelque sorte moindre que celle des femmes ou peut leur être laissée. Hommes, œuvrons avec les femmes, partageons leurs fardeaux et cultivons notre propre autorité morale en partenariat avec elles. Chères sœurs, nous nous fions à la force morale que vous apportez dans le monde, dans le mariage, dans la famille, dans l'Église. Nous nous appuyons sur les bénédictions que vous faites descendre des cieux par vos prières et votre foi. Nous prions pour votre sécurité, votre bonheur et votre paix, et pour votre influence, afin qu'elle soit soutenue. Au nom de Jésus-Christ. Amen.
Several years ago, I needed to speak to the wife of one of the bishops in our stake, so I called their home. A young son answered the phone. I said, "Hello,
is your..." J'ai donc téléphoné chez eux. Leur jeune fils a répondu au téléphone. J'ai dit, "Bonjour, ta mère est-elle là?" Il a répondu, "Oui, je vais la chercher. Qui êtes-vous?" J'ai répondu, "Dis-lui que c'est le président Nielsen." Il y a eu un bref silence. Puis j'ai entendu dire d'une voix excitée, "Eh maman, c'est le président Hinckley au téléphone." Je n'ose imaginer ce qu'elle a dû penser. Ça a dû être la marche la plus longue de toute sa vie pour arriver au téléphone. La pensée m'est venue à l'esprit. Je le fais? Je ne l'ai pas fait, nous avons bien ri. Maintenant que j'y repense, elle doit avoir été déçue que cela ait été que moi. Que feriez-vous si le prophète du Seigneur vous téléphonait vraiment? Bien, il l'a fait. Le président Manson a de nouveau appelé chacun de nous à une œuvre très importante. Il a dit, c'est maintenant que les membres et les missionnaires doivent s'unir et travailler ensemble pour œuvrer dans la vigne du Seigneur afin de lui amener des âmes. Avons-nous écouté? Partout dans le monde, des pieux, des districts, des missions connaissent un regain d'énergie, tandis que la déclaration faite par le Sauveur à Joseph Smith en 1832 s'accomplit. Voici, je hâterai mon œuvre en son temps. Mes frères et sœurs, ce temps est maintenant. Je le sens. Et je suis sûr que vous le sentez aussi. J'ai voulu concrétiser mon enthousiasme et ma foi en Jésus-Christ. Quand je jouais au football, je pensais en termes de plan de match. Nous n'avions aucun doute au début d'un match que si notre équipe était préparée à utiliser les bonnes stratégies, nous allions gagner. Cependant, j'ai parlé récemment avec L.A. Val Edwards, entraîneur bien connu de BYU, de nos plans de match, et il m'a dit, l'action que vous décidiez de mener m'importait peu tant que nous marquions des essais. Ayant été l'un de ses quarts arrière, je pensais que c'était beaucoup plus complexe que ça, mais peut-être que sa philosophie toute simple est la raison pour laquelle un stade porte son nom. Du fait que nous faisons tous partie de l'équipe du Seigneur, avons-nous chacun notre plan de match gagnant personnel? Sommes-nous prêts à jouer? Si nous, les membres, aimons vraiment notre famille, nos amis et d'autres personnes que nous côtoyons, ne voudrions-nous pas leur rendre témoignage de l'Évangile rétabli? En juin, lors du séminaire pour les nouveaux présidents de mission, un nombre record de 173 nouveaux présidents et leurs femmes ont reçu les dernières instructions avant de commencer leur mission. Les 15 membres de la première présidence et du collège des 12 apôtres se sont adressés à ce groupe spécial. L. Tom Perry a dit en conclusion, c'est l'époque la plus remarquable de l'histoire de l'Église. C'est quelque chose de comparable aux grands événements qui sont produits dans l'histoire de l'Église, comme la première vision, le don que représente le livre de Mormon, le rétablissement de l'Évangile, et toutes les choses qui édifient cette fondation pour que nous allions de l'avant et enseignions dans le royaume de notre Père Céleste. Nous devons nous impliquer comme jamais auparavant pour nous mettre au diapason de l'enthousiasme de nos dirigeants et de l'engagement de nos missionnaires à plein temps. Cette œuvre ne va pas aller de l'avant à la façon voulue par le Seigneur sans nous. Le président Eyring a dit à juste titre, quel que soit notre âge, nos compétences, notre appel dans l'Église ou notre lieu de résidence, nous sommes appelés comme un seul homme à l'aider à moissonner les âmes. Voici le plan de match que je me suis senti poussé à mettre en œuvre après avoir réfléchi à des expériences passées, avoir prié et avoir lu le chapitre 13 de Prêcher mon Évangile. Je vous invite à prendre ces points en considération quand vous réfléchirez à votre plan à vous. Premièrement, priez spécifiquement pour approcher chaque jour quelqu'un du Sauveur et de son Évangile. Vous pourriez le faire en considérant tous les gens comme des fils et des filles de Dieu qui s'aident mutuellement à revenir vers leur foyer céleste. Pensez aux nouveaux amis que vous vous feriez. Deuxièmement, priez chaque jour nommément pour les missionnaires qui œuvrent dans votre quartier, ainsi que pour leurs amis de l'Église. La seule façon de le faire est de les saluer, de regarder leur badge, de les appliquer par leur nom et de leur demander qui ils instruisent. Récemment, Russell M. Nelson a dit, « Tant que vous ne connaissez pas le nom et le visage d'une personne, le Seigneur ne peut pas vous aider à connaître son cœur. » J'ai assisté au baptême d'une femme merveilleuse qui a rendu son témoignage. Je n'oublierai jamais ce qu'elle a dit. Jamais autant de personnes n'ont prié pour moi, tandis que j'essayais de trouver les réponses à mes questions. Cette famille de la paroisse s'intéresse à moi. Comment ne pourrais-je pas savoir que cette œuvre est vraie? Enfin, invitez un ami à l'activité chez vous ou ailleurs. où que vous alliez, ou quoi vous fassiez, demandez-vous qui aimerait cela, puis écoutez ce que l'Esprit vous dit de faire. Le Sauveur m'a enseigné une leçon subtile dans mon apprentissage personnel de l'Évangile qui, je crois, s'applique magnifiquement à l'accélération de l'œuvre. Quand quelque chose m'enthousiasme, cela se remarque dans ma façon d'écrire, et cela se termine toujours par un point d'exclamation qui, par définition, indique un sentiment fort ou quelque chose de grande importance. J'étais intrigué quand j'ai commencé à regarder les Écritures concernant le rassemblement qui finissait avec ce point d'exclamation, comme dans cette aspiration venue du fond du cœur d'Alma. « Oh, que je voudrais être un ange et satisfaire le souhait de mon cœur, d'aller et de parler avec la trompette de Dieu, d'une voix qui fait trembler la terre et d'appeler tous les peuples au repentir !» Mes recherches m'ont amené à trouver 65 passages traduisant une grande émotion liée à l'œuvre missionnaire, entre autres. « Et comme sa joie est grande pour l'âme qui se repent !» Et si vous travaillez toute votre vie à appeler ce peuple au repentir, et que vous m'amenez ne fût-ce qu'une seule âme, comme votre joie sera grande avec elle dans le royaume de mon Père. Or, si votre joie est grande avec cette seule âme que vous m'aurez amenée dans le royaume de mon Père, comme elle sera grande si vous en amenez beaucoup. Ma prise de conscience de ces versets extraordinaires a joué un rôle important dans ma première tâche de 70 interrégions. J'étais un peu nerveux d'accompagner un apôtre, Quentin L. Cook, à une conférence de pieux. Alors que j'entrais dans le bureau du président de pieux pour la première réunion de ce week-end, j'ai remarqué une paire de chaussures éculées de couleur bronze posées sur le meuble derrière son bureau, accompagnée d'une écriture finissant par un point d'exclamation. Quand je l'ai lu, j'ai senti que le Seigneur était au courant de mon étude, avait répondu à mes prières, et qu'il savait exactement ce dont j'avais besoin pour calmer mon cœur anxieux. J'ai demandé au président de pieux de me raconter l'histoire de ses chaussures. Il a dit, « Ce sont les chaussures d'un jeune converti à l'église, dont la situation familiale était difficile, mais qui était décidé à réussir sa mission, et c'est ce qu'il a fait au Guatemala. » À son retour, j'ai eu un entretien avec lui pour le relever honorablement, et j'ai vu que ses chaussures étaient usées. Ce jeune homme avait tout donné au Seigneur, quasiment sans soutien de sa famille. Il s'est aperçu que je regardais ses chaussures et il m'a demandé, « Frère, y a-t-il quelque chose qui ne va pas ?» Je lui ai répondu, « Non, frère, tout va bien. Puis-je avoir ses chaussures ?» Le président de pieux a poursuivi. Mon respect et mon amour pour lui étaient énormes. J'ai voulu garder le souvenir de cette expérience. Alors j'ai fait peindre ses chaussures de couleur bronze. Chaque fois que j'entre dans mon bureau, cela me rappelle l'effort que nous devons tous faire, quelle que soit notre situation. Le verset se trouve dans Ésaïe. Qui sont beaux sur les montagnes les pieds de celui qui apporte de bonnes nouvelles, qui publie la paix. De celui qui apporte de bonnes nouvelles, qui publie le salut. De celui qui dit à Sion, ton Dieu règne. Mes chers frères et sœurs, la femme de l'évêque s'est peut-être demandé pourquoi le prophète l'appelait. Je témoigne qu'elle et nous n'avons pas besoin de nous poser davantage la question. Je sais que chacun de nous doit élaborer à mener à bien son plan de match personnel avec enthousiasme afin d'œuvrer de concert avec les missionnaires à plein temps. J'ajoute mon témoignage à celui de Joseph Smith, le prophète. Et maintenant, après les nombreux témoignages qui ont été rendus de lui, voici le témoignage, le dernier de tous, que nous rendons de lui. Qu'il vit, au nom sacré de Jésus-Christ. Amen.
Thank you, brethren. The choir and congregation
Merci, frère. Le chœur et l'assemblée vont maintenant se lever et chanter « Saint en avant, armé de foi en Christ ». Après le cantique d'intermède, Arnulfo Valenzuela et Timothy J. Daichis des 70 s'adresseront à nous. Ils seront suivis de Jeffrey R. Holland du Collège des 12 apôtres.
This
Vous assistez à la 183e conférence générale d'octobre de l'Église de Jésus-Christ des Saints des derniers jours.
My beloved brothers and sisters,
mes frères et sœurs bien-aimés, voici à peine quelques semaines, je me trouvais au centre de formation des missionnaires à Mexico pour adresser un message aux missionnaires. Ma femme et moi sommes arrivés intentionnellement quelques heures en avance, en explorant les beaux jardins et les rues bien entretenues du RMDC. Il nous a été impossible de ne pas remarquer le bonheur que les visages des centaines de jeunes frères et sœurs irradiaient. Chacun d'eux concentré sur l'acquisition de nouvelles compétences linguistiques et apprenant à mieux apprécier son but en tant que missionnaire. En prenant le temps d'observer attentivement ce spectacle remarquable, j'ai réfléchi aux paroles d'Alma quand il a commandé à Lehmann, son fils, d'enregistrer l'histoire de son peuple dans les annales qui lui avaient été confiées et de considérer toutes ces choses comme sacrées afin qu'un jour elles parviennent à toutes les nations, tribus, langues et peuples. Puis Alma lui dit, « Or, il se peut que tu penses que c'est là la folie de ma part. » Mais voici, je te dis que c'est par des choses petites et simples que de grandes choses sont réalisées. Et de petits moyens confondent dans de nombreux cas les sages. Et le Seigneur Dieu fait usage de moyens pour réaliser ses grands et éternels desseins. Et c'est par de très petits moyens que le Seigneur confond les sages et réalise le salut de nombreuses âmes. L'innocence et la jeunesse de nos missionnaires sont un bon exemple de la façon dont le Seigneur procède en utilisant les personnes humbles pour inviter les gens à aller en Christ, en les aidant à recevoir l'Évangile rétabli par la foi en Jésus-Christ et en son expiation par le repentir, par le baptême, par la réception du don du Saint-Esprit et par la persévérance jusqu'à la fin. En tant que membre de l'Église, grâce à nos propres choses petites et simples, nous pouvons en convaincre beaucoup de l'erreur de leur voie et contribuer à les faire parvenir à la connaissance de leur Dieu pour le salut de leur âme. Un jour, j'ai eu l'occasion d'accompagner un président de pieux et un évêque auprès d'un membre moins pratiquant. De façon très simple, nous lui avons parlé des bénédictions du jour du sabbat. Nous lui avons exprimé notre amour sincère. Il a répondu, « Tout ce dont j'avais besoin, c'est que quelqu'un vienne me donner un abrazo, me serre dans ses bras. Je me suis immédiatement levé et je l'ai pris dans mes bras. Le lendemain était un dimanche. Ce même frère est venu à la réunion de Sainte-Seine avec toute sa famille. Au cours d'une visite d'instructrice visiteuse, Martha, un membre de notre paroisse, a dit à ma femme et à sa compagne de ne jamais revenir. Elle avait décidé de cesser de venir à l'église. Une des instructrices visiteuses lui a demandé si elle pouvait chanter ensemble un cantique cette dernière fois. Et elle a accepté. Pendant qu'elle chantait, quelque chose de particulier s'est passé. Peu à peu, l'esprit a commencé à emplir la pièce. Chacune d'elles l'a senti. Le cœur de Martha a commencé à s'adoucir. Les larmes aux yeux, elle a exprimé les sentiments de son cœur à ses instructrices visiteuses. C'est à ce moment-là qu'elle s'est rendue compte qu'elle savait que l'Évangile était vrai. Elle a alors remercié ses instructrices visiteuses de leur visite et elle a exprimé son désir qu'elles reviennent. Depuis lors, elle les a reçues avec joie. Martha a commencé à venir à l'église avec sa jeune fille. Pendant des années, elles sont venues régulièrement. Martha ne perdant jamais l'espoir que son mari décide un jour de se joindre à elle. Finalement, le jour est arrivé où le Seigneur a touché son cœur. Il a commencé à venir avec elle, comme cela a été le cas de leur autre fille peu de temps après. Cette famille a commencé à ressentir la joie véritable de recevoir les bénédictions de l'Évangile dans son foyer. Depuis lors, Martha a travaillé fidèlement comme présidente de ses secours de notre paroisse et son mari a bien rempli plusieurs appels dans le pieu. Tout cela a commencé par un cantique, une chose petite et simple qui a touché le cœur de Martha. Naaman était le chef de l'armée du roi de Syrie. C'était un homme honorable, un homme d'une grande valeur, mais qui était aussi lépreux. N'ayant pu trouver de remède pour sa lèpre auprès du roi d'Israël, Naaman se rendit chez Élisée, le prophète. Celui-ci lui fit dire par un messager, « Va et lave-toi 7 fois dans le Jourdain. Ta chair redeviendra saine et tu seras pur. » Naaman fut irrité et il s'en alla en disant, « Voici, je me disais, il sortira vers moi. Il se présentera lui-même, il invoquera le nom de l'Éternel, son Dieu, il agitera sa main sur la place et guérira le lépreux. » Mais ses serviteurs s'approchèrent pour lui parler et lui dire, « Mon père, si le prophète t'eût demandé quelque chose de difficile, ne l'aurais-tu pas fait? Combien plus dois-tu faire ce qu'il t'a dit? Lave-toi et tu seras pur. » Il descendit alors et se plongea 7 fois dans le Jourdain, selon la parole de l'homme de Dieu. Et sa chair redevint comme la chair d'un jeune enfant. Et il fut pur. Thomas Esmondson, notre prophète, nous a tous invités à aller au secours de nos frères et sœurs. Et il a dit, Le monde a besoin de votre aide. Il y a des pas à fermir, des mains à saisir, des esprits encouragés, des cœurs inspirés et des âmes à sauver. Les bénédictions de l'éternité vous attendent. Fin de citation. Je témoigne que beaucoup de gens qui ont besoin de notre aide sont là et ils nous attendent. Ils sont prêts pour que leurs frères et sœurs vaillants leur tendent la main et viennent à leur secours en employant des moyens petits et simples. J'ai personnellement passé de nombreuses heures à rendre visite à des membres de l'Église moins pratiquants, dont le Seigneur a déjà adouci le cœur, qui sont maintenant prêts à recevoir notre témoignage et nos expressions d'amour sincère. Quand nous leur tendons la main et les invitons, ils reviennent sans hésitation à l'Église. Tendons la main aux autres avec foi et amour. Rappelons-nous la promesse du Seigneur. Et si vous travaillez toute votre vie, appelez ce peuple au repentir, et que vous m'amenez ne fût-ce qu'une seule âme, comme votre joie sera grande avec elle dans le royaume de mon Père. Or, si votre joie est grande avec cette seule âme que vous m'aurez amenée dans le royaume de mon Père, comme elle sera grande si vous m'en amenez beaucoup. Je rends témoignage de l'amour du Seigneur envers tous ses enfants. Je sais qu'il vit et qu'il est notre Rédempteur. Au nom de Jésus-Christ, amen.
During a time of joyful feasting at Jerusalem,
pendant une fête joyeuse à Jérusalem, le Sauveur quitta la foule pour aller à la recherche des plus démunis. Il y trouva à Bethesda la piscine à cinq portiques, située près de la porte des brebis qui était connue pour attirer les affligés. L'évangile de Jean nous dit que près de la piscine étaient couchés en grand nombre des malades, des aveugles et des boiteux, des paralytiques qui attendaient le mouvement de l'eau. L'Écriture ajoute, car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau. Et celui qui descendait le premier, après que l'eau avait été agitée, était guéri, quelle que fût sa maladie. La visite du Sauveur est illustrée par un magnifique tableau de Karl Bloch intitulé « Le Christ guérit les malades à la piscine de Bethesda ». Bloch montre Jésus soulevant délicatement un haut vent temporaire dévoilant un malade qui attendait allongé près de la piscine. Ici, le mot « malade » désigne quelqu'un d'impotent et met l'accent sur la miséricorde et la grâce du Sauveur, venu discrètement servir les gens qui ne pouvaient pas s'en sortir seuls. Sur le tableau, l'homme affligé, recroquevillé par terre, dans l'ombre, épuisé, démoralisé d'avoir souffert de son infirmité chaque jour depuis 38 ans. Tout en soulevant le bord du voile d'une main, le Sauveur lui fait signe de l'autre et lui pose une question pénétrante. « Veux-tu être guéri ?» L'homme répond, « Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée. Et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. » Au problème apparemment insoluble de cet homme, Jésus offre une réponse profonde et inattendue. « Lève-toi, prends ton lit et marche. » Aussitôt cet homme fut guéri, il prit son lit et marcha. Luc nous dit qu'à un autre moment touchant, le Sauveur se rendant à Jérusalem a rencontré 10 lépreux. Du fait de leur infirmité, ils se tenaient à distance. C'étaient des parias, impurs et indésirables. Jésus Maître, aie pitié de nous, l'implorèrent-ils. Lui demandant en d'autres termes, ne peux-tu pas faire quelque chose pour nous? Le grand médecin, rempli de compassion, savait que la foi devait précéder le miracle et leur dit en conséquence, « Allez vous montrer au sacrificateur. » Tandis qu'ils y allaient avec foi, le miracle se produisit. Pouvez-vous imaginer la joie débordante à chaque pas quand ils ont vu en temps réel leur corps être purifié, guéri et rétabli? L'un d'eux, se voyant guéri, revint sur ses pas, glorifiant Dieu à haute voix. Il tomba sur sa face aux pieds du maître et lui rendit grâce. Jésus lui dit, « Lève-toi, va, ta foi t'a sauvé. » Quand j'étais médecin et chirurgien, ma pratique se concentrait sur la reconstruction et la correction du physique. Jésus-Christ guérit le corps, l'intellect et l'esprit, et la guérison qu'il opère commence avec la foi. Vous rappelez-vous avoir été guéri et avoir débordé de foi et de joie? Souvenez-vous du moment où Dieu vous a confirmé que vous êtes son fils ou sa fille et qu'il vous aime énormément, et vous vous êtes senti guéri. Si ces moments vous semblent perdus, vous pouvez les retrouver. Le Sauveur nous dit comment retrouver la santé, être complet ou guérir. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Car mon joug est doux et mon fardeau léger. Viens et suis-moi. Nous invite à laisser derrière nous notre ancienne vie et nos désirs mondains, à devenir une nouvelle créature pour qui les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles, et à qui cœur neuf et plein de foi, et nous sommes guéris. Approchez-vous de moi et je m'approcherai de vous. Cherchez-moi avec diligence et vous me trouverez. Demandez et vous recevrez. Frappez et l'on vous ouvrira. En nous rapprochant de lui, nous comprenons que la condition mortelle se doit d'être difficile et que l'opposition à toute chose n'est pas une faille dans le plan du salut. L'opposition est au contraire l'élément indispensable de la condition mortelle qui fortifie notre volonté et affine nos choix. Les vicissitudes de la vie nous aident à façonner une relation éternelle avec Dieu et à graver son image sur notre visage quand nous lui offrons notre cœur. Faites ceci en mémoire de moi, et ce que le Sauveur a demandé quand il a institué ce que nous appelons la Sainte Cène. Cette ordonnance avec le pain et l'eau que nous avons contractée avec Dieu permet au pouvoir de l'expiation d'opérer dans notre vie. Nous sommes guéris en abandonnant les habitudes et modes de vie qui endurcissent notre cœur et roidissent notre cou. Quand nous déposons les armes de notre rébellion, nous agissons véritablement par nous-mêmes, et nous ne sommes plus aveuglés par les sophismes de Satan, ni assourdis par les bruits discordants du monde profane. Quand nous nous repentons et devenons convertis au Seigneur, nous sommes guéris et notre culpabilité est balayée. Comme Énos, nous pouvons nous demander, « Comment cela se fait-il ? » Le Seigneur répond, « À cause de ta foi en Christ, c'est pourquoi va, ta foi t'a purifié. » Corrie ten Boom, fervente chrétienne néerlandaise, a trouvé pareille guérison en dépit de son emprisonnement dans un camp de concentration pendant la Deuxième Guerre mondiale. Elle a beaucoup souffert, mais contrairement à Betsy, sa sœur bien-aimée qui est morte dans l'un de ces camps, elle a survécu. Après la guerre, elle a souvent raconté ses expériences de guérison et de pardon. Une fois, un ancien garde nazi qui avait été impliqué dans l'enfermement cruel de Corrie à Ravensbrück, en Allemagne, est allé la trouver, se réjouissant de son message sur le pardon et l'amour du Christ. « Je suis reconnaissant de votre message, Fraulein, dit-il. Quand je pense que, comme vous l'avez dit, il a lavé mes péchés. Sa main s'est tendue pour serrer la mienne, se souvient Corrie. Et moi qui avais si souvent prêché la nécessité de pardonner, je gardais ma main le long de mon corps. Alors même que des pensées virulentes de vengeance bouillonnaient en moi, j'ai ressenti le péché qu'elle recouvrait. Seigneur Jésus, ai-je prié, pardonne-moi et aide-moi à lui pardonner. J'ai essayé de sourire et j'ai lutté pour lever ma main. Je n'y arrivais pas. Je ne ressentais rien, pas même la moindre étincelle de chaleur ou de charité. Alors j'ai fait à nouveau une prière silencieuse. Jésus, je ne peux pas lui pardonner. Donne-moi ton pardon. Au moment où je lui prenais la main, le phénomène le plus incroyable s'est produit. Un courant est parti de mon épaule, a parcouru mon bras et, traversant ma main, est passé de moi vers lui, tandis que dans mon cœur jaillissait un amour pour cet étranger qui m'a bouleversé. J'ai alors découvert que ce n'est pas de notre pardon, pas plus que de notre bonté que dépend la guérison du monde, mais de ceux du Seigneur. Quand il nous dit d'aimer nos ennemis, il nous donne en même temps que ce commandement l'amour lui-même. Corrie ten Boom a été guérie. Le président Monson a dit, « Il est une vie qui soutient ceux qui se trouvent dans les difficultés ou sont affligés par la douleur et la souffrance, et c'est le Seigneur Jésus-Christ. Si vous vous sentez impur, mal aimé, malheureux ou indigne, rappelez-vous que tout ce qui est injuste dans la vie peut être réparé par l'expiation du Christ. Remettez-vous-en avec foi et patience au calendrier du Sauveur et au dessein qu'il a pour vous. Ne crains pas, crois seulement. » Soyez assurés que le Sauveur continue de chercher à guérir notre âme et notre cœur. Il attend à la porte et frappe. Répondons-lui en recommençant à prier, nous repentir, pardonner et oublier. Et mon Dieu, rendons service à notre prochain et tenons-nous en des lieux saints avec une vie rendue pure. Le paralytique à la piscine de Bethesda, le lépreux au bord du chemin de Jérusalem et Corrie ten Boom ont été guéris. Veux-tu être guéri? Lève-toi et marche. Sa grâce est suffisante et vous ne marcherez pas seul. J'ai la connaissance que Dieu vit. Je sais que nous sommes tous ses enfants et qu'il nous aime pour ce que nous sommes et pour ce que nous pouvons devenir. En son temps, à sa manière et selon sa volonté, nous serons rendus purs et dans notre intégrité, selon sa volonté et ses tendres miséricordes. C'est mon témoignage au nom de Jésus-Christ. Amen.
L'apôtre Pierre a écrit que les disciples de Jésus-Christ doivent être animés de compassion mutuelle. Dans ce même esprit, je souhaite parler aux personnes qui souffrent d'une forme de maladie mentale ou de trouble émotionnel, que ces afflictions soient légères ou sévères, qu'elles soient passagères ou chroniques toute leur vie durant. Nous comprenons la complexité de tels sujets quand nous entendons des professionnels de la santé parler de névrose et de psychose, de prédisposition et de compulsion génétique, de bipolarité, de paranoïa et de schizophrénie. Aussi déconcertantes qu'elles puissent être, ces afflictions font partie des réalités de la condition mortelle, et il n'y a pas plus de honte à les reconnaître qu'à reconnaître un combat contre l'hypertension artérielle ou l'apparition soudaine d'une tumeur maligne. Lorsque nous nous efforçons d'obtenir une certaine paix et une certaine compréhension de ces sujets difficiles, il est primordial de nous souvenir que nous vivons et avons choisi de vivre dans un monde déchu dans lequel, à des fins divines, notre quête de la divinité sera mise à l'épreuve encore et encore. La plus grande garantie qu'apporte ce plan est qu'un Sauveur a été promis, un Rédempteur qui, grâce à notre foi en lui, nous élèverait triomphalement au-dessus de ses difficultés et de ses épreuves, même si le coût de cet acte pour le Père qui l'a envoyé et le Fils qui est venu était incommensurable. Ce n'est que l'appréciation de cet amour divin qui rendra notre souffrance personnelle moins grande, d'abord supportable, puis compréhensible, et finalement rédemptrice. Laissons de côté les maladies extraordinaires que j'ai mentionnées pour nous concentrer sur le TDM, le trouble dépressif majeur, que l'on appelle plus communément la dépression. Quand je parle de cela, comprenez bien que je ne parle pas des jours où rien ne va, ni des échéances fiscales, ni d'autres moments de découragement que nous avons tous. Tout le monde ressentira occasionnellement de l'anxiété ou du découragement. Le livre de Mormon dit qu'Amon et ses frères ont été déprimés à une époque très difficile, ce qui peut nous arriver à tous. Mais aujourd'hui, je parle de quelque chose de plus grave, d'une affliction si sérieuse qu'elle restreint de façon importante la capacité de fonctionner pleinement, d'un gouffre si profond dans l'esprit qu'on ne peut suggérer de façon responsable qu'il disparaîtrait certainement si les victimes se prenaient en main et pensaient plus positivement. Bien que je sois un partisan vigoureux de la prise en main et de la pensée positive. Non, cette nuit sombre de l'esprit est plus qu'un simple découragement. J'ai vu cela arriver à un saint homme quand son épouse, à qui il était marié depuis 50 ans, est décédée. J'ai vu cela arriver à deux jeunes mamans affligées de ce qu'on appelle par euphémisme la dépression postnatale. Je l'ai vu frapper des étudiants angoissés, des anciens combattants, des grands-mères inquiètes du bien-être de leurs enfants adultes. Et je l'ai vu chez des jeunes pères essayant de subvenir aux besoins de leur famille. À cet égard, j'en ai aussi fait une fois l'expérience personnelle de façon terrifiante. À un moment de notre vie conjugale, quand des préoccupations financières se sont jointes à un épuisement énorme, j'ai ressenti un choc psychique aussi soudain que réel. Avec la grâce de Dieu et l'amour de ma famille, j'ai continué à fonctionner et à travailler. Mais même après toutes ces années, je ressens toujours une compassion profonde pour les personnes qu'une telle obscurité affecte plus chroniquement ou plus profondément que ça a été le cas pour moi. Dans tous les cas, nous avons tous puisé du courage auprès des gens qui, selon les paroles de Joseph le prophète, ont scruté et contemplé l'abîme le plus ténébreux et l'ont surmonté. Parmi les plus grands, il y a eu Abraham Lincoln, Winston Churchill et George Albert Smith, ce dernier étant l'un des hommes les plus généreux et les plus chrétiens de notre dispensation, qui a lutté pendant un certain nombre d'années contre une dépression récurrente avant de devenir le 8e prophète et président universellement bien-aimé de l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours. Alors, comment réagissez-vous au mieux quand des difficultés mentales ou émotionnelles vous assaillent, vous ou vos êtres chers? Par-dessus tout, ne perdez jamais la foi à votre Père Céleste qui vous aime plus que vous ne pouvez le concevoir. Comme le président Monson l'a dit aux sœurs de la Société de Secours de façon si émouvante samedi soir dernier, cet amour ne change jamais. Il est là pour vous quand vous êtes triste ou heureuse, découragée ou optimiste. L'amour de Dieu est là pour vous, que vous le méritiez ou non. Il est simplement toujours là. N'en doutez jamais. Ne vous endurcissez jamais le cœur. Poursuivez fidèlement les activités spirituelles qui ont fait leur preuve pour amener l'Esprit du Seigneur dans votre vie. Demandez les conseils des personnes qui détiennent les clés de votre bien-être spirituel. Demandez et chérissez les bénédictions de la prêtrise. Prenez la Sainte Cène chaque semaine et tenez-vous avec fermeté aux promesses de perfection de l'expiation de Jésus-Christ. Croyez aux miracles. J'en ai vu de si nombreux se produire quand tout laissait à penser que tout espoir était vain. L'espoir n'est jamais vain. Si ces miracles ne se produisent pas bientôt, ou totalement, ou apparemment pas du tout, souvenez-vous de l'exemple personnel angoissé du Sauveur. Si la coupe amère ne passe pas, buvez-la, et soyez fort, ayant confiance en un avenir meilleur. Pour éviter la maladie chaque fois que cela est possible, surveillez les indicateurs de stress chez vous et chez les personnes que vous pouvez aider. Comme pour votre voiture, soyez attentif aux augmentations de température, à la vitesse excessive ou au réservoir presque à sec. Quand vous faites face à la dépression due à l'épuisement, faites les ajustements nécessaires. La fatigue est notre ennemi commun à tous. Alors ralentissez, reposez-vous, régénérez-vous et rechargez-vous. Les médecins nous promettent que si nous ne prenons pas le temps d'aller bien, un jour, nous prendrons assurément le temps d'être malade. Si votre état s'aggrave, demandez conseil à des personnes dignes de foi, possédant une formation certifiée, des compétences professionnelles et de bonne valeur. Soyez honnête avec elles à propos de votre histoire et de vos difficultés. Examinez avec l'aide de la prière et de façon responsable les conseils qu'elles donnent et les solutions qu'elles recommandent. Si vous aviez l'appendicite, Dieu attendrait de vous que vous ne demandiez que vous demandiez une bénédiction de la prêtrise et que vous ayez recours aux meilleurs soins médicaux disponibles. Il en est de même des troubles émotionnels. Notre Père Céleste attend de nous que nous utilisions tous les dons merveilleux qu'il a fournis dans cette dispensation glorieuse. Si vous êtes la personne affectée ou un aidant, essayez de ne pas vous laisser submerger par l'ampleur de votre tâche. Ne croyez pas que vous pouvez tout arranger. Arrangez ce que vous pouvez. Si ce sont seulement de petites victoires, soyez-en reconnaissants et soyez patients. Des dizaines de fois dans les Écritures, le Seigneur commande à quelqu'un de rester calme ou d'être calme et d'attendre. Supporter patiemment certaines choses fait partie de notre apprentissage dans la condition mortelle. Quant à vous, les aidants, dans vos efforts pour veiller à la santé de quelqu'un d'autre, ne détruisez pas la vôtre. Dans tout cela, agissez avec sagesse. Sagesse, ne courez pas plus vite que vous n'avez de force. Quoi que vous puissiez ou ne puissiez pas donner d'autre, vous pouvez offrir vos prières et donner votre amour sincère. La charité est patiente. Elle est pleine de bonté. Elle excuse tout. Elle espère tout. Elle supporte tout. La charité ne périt jamais. Rappelons-nous aussi qu'au milieu de toute maladie ou difficulté, il y a beaucoup de choses dans la vie qui donnent de l'espoir et pour lesquelles nous pouvons être reconnaissants. Nous sommes infiniment plus que nos limites ou nos afflictions. Stéphanie Clark Nielsen et sa famille sont nos amis depuis plus de 30 ans. Le 16 août 2008, Stéphanie et Christian, son mari, ont été victimes d'un accident d'avion et de l'incendie qui s'en est suivi, laissant à Stéphanie des cicatrices si horribles que ses ongles d'orteils manucurés ont permis aux membres de sa famille venus identifier les victimes de la reconnaître. Il n'y avait quasiment aucune chance qu'elle survive. Après 5 mois de coma artificiel, elle s'est éveillée et elle s'est vue. Alors, l'horrible dépression due aux cicatrices physiques s'est manifestée. Ayant 4 enfants de moins de 7 ans, Stéphanie ne voulait pas qu'il la revoie un jour. Elle pensait préférable de ne pas vivre. Stéphanie m'a dit un jour, « Je pensais que ce serait plus facile s'ils m'oubliaient et si je sortais tranquillement de leur vie. » Mais tout à son honneur éternel, et grâce aux prières de son mari, de sa famille, de ses amis, de ses 4 beaux-enfants et d'un 5e né dans leur famille il y a 18 mois, Stéphanie a réussi à revenir du gouffre de la destruction pour être l'une des mamans blogueuses les plus populaires du pays. Déclarant ouvertement aux 4 millions de personnes qui consultent son blog que son objectif divin dans la vie est d'être une maman et de chérir chaque jour qui lui a été donné sur cette belle terre. Quel que soit votre combat, mental, émotionnel, physique ou autre, ne prenez pas parti contre la vie si précieuse en y mettant fin. Faites confiance à Dieu, accrochez-vous à son amour. Sachez qu'un jour, l'aurore lumineuse surgira et que toutes les ombres de la condition mortelle fuiront. Bien que nous puissions ressentir que nous sommes comme un vase brisé, comme le psalmiste l'a dit, nous devons nous souvenir que ce vase est dans les mains du potier divin. Les esprits brisés peuvent être guéris de la même façon que les os cassés et les cœurs brisés le sont. Tandis que Dieu œuvre à ses réparations, nous pouvons tous apporter notre aide en étant miséricordieux, en ne portant pas de jugement et en étant bienveillant. Je témoigne de la Sainte Résurrection, ce don ineffable et essentiel de l'expiation du Seigneur Jésus-Christ. Avec l'apôtre Paul, je témoigne que ce qui a été semé corruptible ressuscitera un jour incorruptible, et que ce qui a été semé dans la faiblesse ressuscitera finalement plein de force. Je rends témoignage de ce jour où des proches que nous avons connus avec des handicaps dans la condition mortelle se tiendront devant nous glorifiés et magnifiques, merveilleusement parfaits de corps et d'esprit. Quel moment formidable ce sera! Je ne sais pas si nous serons plus heureux pour nous-mêmes d'avoir été témoins d'un tel miracle, ou plus heureux pour eux de ce qu'ils sont pleinement parfaits et libres enfin. Jusqu'au jour où la compassion absolue du Christ se révélera à nous tous, puissions-nous vivre par la foi, nous tenir avec fermeté à l'espérance et être animés de compassion mutuelle. Je prie au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous remercions toutes les personnes qui se sont adressées à nous cet après-midi et pour la belle musique que le chœur familial a interprétée. Nous rappelons aux frères que la réunion générale de la prêtrise commencera au centre de conférence ce soir à 18h, heure d'été de Salt Lake City. L'émission du chœur du tabernacle diffusée dans tout le pays aura lieu demain matin de 9h30 à 10h, heure d'été de Salt Lake City. La session du dimanche matin de la conférence générale suivra immédiatement. Nous aurons maintenant le plaisir d'entendre Russell M. Nelson du Collège des 12 apôtres. Après son discours, le chœur clôtera cette réunion en chantant « Dans nos foyers, tout est beau ». Ensuite, Carol F. McConkie, première conseillère dans la présidence générale des jeunes filles, fera la prière de clôture.
Sœur Ballard et moi sommes récemment revenus d'un déplacement dans 5 pays d'Europe. Là, nous avons eu l'occasion de rencontrer beaucoup de nos missionnaires, peut-être vos fils et vos filles. Depuis que le président Monson a annoncé l'abaissement de l'âge de départ en mission pour nos jeunes gens et nos jeunes filles, j'ai eu la chance de rencontrer plus de 3000 d'entre eux. La lumière du Christ illumine leur visage et ils sont impatients de faire avancer l'œuvre, trouver et instruire, baptiser et motiver, fortifier et édifier le royaume de Dieu. Toutefois, en les rencontrant, on s'aperçoit rapidement qu'ils ne peuvent pas accomplir cette œuvre seuls. Aujourd'hui, je veux m'adresser à tous les membres parce qu'il est urgent que chaque membre de l'Église soit engagé dans la diffusion de l'Évangile. Comme ça a été cité plusieurs fois aujourd'hui, Joseph Smith, ce prophète, a déclaré « En fin de compte, notre devoir le plus grand et le plus important est de prêcher l'Évangile. » En 1974, le président Kimball a dit « La plus grande raison de l'œuvre missionnaire est peut-être de donner au monde l'occasion d'entendre et d'accepter l'Évangile. » Les Écritures abondent en commandements, en promesses, en appels et en récompenses pour l'enseignement de l'Évangile. J'emploie délibérément le mot « commandement » car il semble que ce soit une instruction absolue à laquelle nous ne pouvons nous soustraire ni individuellement ni collectivement. En juillet de cette année-là, Sœur Ballard et moi sommes allés avec nos enfants présider la mission canadienne de Toronto. Les paroles du président Kimball résonnaient dans mes oreilles, particulièrement quand il a dit « Je me demande, frères et sœurs, si nous faisons tout notre possible. Sommes-nous satisfaits de la façon dont nous abordons l'enseignement du monde ? Il y a maintenant 144 ans que nous faisons du prosélytisme. Sommes-nous prêts à allonger la foulée, à élargir notre vision ? Il nous a aussi demandé d'allonger la foulée et de travailler ensemble pour édifier l'Église et le royaume de Dieu. En juin dernier, le président Munson a répété le même appel aux membres de l'Église. Il a dit « Le moment est venu pour les membres et les missionnaires d'œuvrer ensemble dans la vigne du Seigneur pour lui amener des âmes. Il a préparé le moyen pour que nous puissions parler de l'Évangile d'une multitude de façons, et il nous aidera aussi dans nos efforts si nous agissons avec foi pour accomplir son œuvre. Il est bon, frères et sœurs, de réfléchir aux enseignements des prophètes depuis Joseph Smith jusqu'à nos jours. Ils ont encouragé et appelé les dirigeants et les membres de l'Église à œuvrer avec zèle pour apporter le message du rétablissement de l'Évangile à tous les enfants de notre Père Céleste dans le monde entier. Mon message cet après-midi est que le Seigneur hâte vraiment son œuvre. De nos jours, cela ne peut s'accomplir que quand chaque membre de l'Église tend la main avec amour pour parler des vérités de l'Évangile rétabli de Jésus-Christ. Nous avons besoin de travailler ensemble, en partenariat avec nos près de 80 000 missionnaires actuellement en service. Les informations relatives à cette œuvre, en particulier les tâches des dirigeants des conseils de pieux et de paroisses, sont clairement décrites sur le site internet lds.org sous l'intitulé « Athée, l'œuvre du salut ». D'après nos recherches, nous savons que la plupart des membres pratiquants de l'Église désirent que les bénédictions de l'Évangile fassent partie de la vie de leurs proches et même des gens qu'ils n'ont jamais rencontrés. Nous savons aussi que beaucoup de membres hésitent à participer à l'œuvre missionnaire et à parler de l'Évangile pour deux raisons essentielles. La première est la peur. Beaucoup de membres ne prient même pas pour avoir l'occasion de parler de l'Évangile, craignant de recevoir l'inspiration divine de faire quelque chose dont ils ne se croient pas capables. La seconde raison est la mauvaise compréhension de ce qu'est l'œuvre missionnaire. Nous savons quand quelqu'un se lève pour faire un discours en réunion de Sainte-Seine et dit « Aujourd'hui, je vais parler de l'œuvre missionnaire », ou peut-être même quand frère Ballard se lève en conférence générale et dit la même chose, certains de vous peuvent penser « Encore ? Nous avons déjà entendu cela ». Nous savons que personne n'aime se sentir coupable. Peut-être pensez-vous que ce que l'on vous demande de faire avec vos amis ou voisins est irréaliste. Avec l'aide du Seigneur, laissez-moi dissiper toute crainte que vous ou l'un de nos missionnaires à plein temps pouvez avoir à parler de l'Évangile. Prenez la décision de faire ce que Jésus nous a demandé de faire. Le Sauveur a dit « Demandez, et l'on vous donnera. Cherchez, et vous trouverez. Frappez, et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit. Celui qui cherche trouve, et l'on ouvre à celui qui frappe. Lequel de vous donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain ? Ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent ? Si vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, À combien plus forte raison votre Père, qui est dans les cieux, donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui les lui demandent ? Frères et sœurs, la peur sera remplacée par la foi et la confiance quand les membres ou les missionnaires à plein temps s'agenouilleront en prière et demanderont au Seigneur de leur donner la bénédiction d'avoir des occasions missionnaires. Alors, nous devons faire preuve de foi et être attentifs aux occasions de présenter l'Évangile de Jésus-Christ aux enfants de notre Père Céleste. Et les occasions ne manqueront pas de venir. Elles ne nous demanderont jamais une action forcée ou planifiée. Elles seront le résultat naturel de notre amour pour nos frères et sœurs. Soyez simplement positifs. Et les gens à qui vous parlez ressentiront votre amour. Ils n'oublieront jamais ce sentiment, même si le moment n'est peut-être pas le bon pour qu'ils acceptent l'Évangile. Cela aussi pourra changer à l'avenir quand leur situation changera. Il est impossible d'échouer quand on fait de son mieux au service du Seigneur. Bien que le résultat dépende du libre arbitre, faire connaître l'Évangile est notre responsabilité. Faites confiance au Seigneur. Il est le bon berger. Il connaît ses brebis et ses brebis connaissent sa voix. Et aujourd'hui, la voix du bon berger est votre voix et la mienne. Et si nous ne nous impliquons pas, beaucoup de gens qui auraient pu entendre le message du rétablissement passeront à côté. Dit simplement, c'est une question de foi et d'action de notre part. Les principes sont très simples. Priez, individuellement et en famille, pour avoir des occasions missionnaires. Le Seigneur a dit dans les doctrines d'alliance que beaucoup de gens sont empêchés de recevoir la vérité parce qu'ils ne savent pas où la trouver. Vous n'avez pas besoin d'être extraverti ou un instructeur convaincant. Si vous avez en vous un amour et un espoir durable, le Seigneur a promis que si vous élevez la voix devant ce peuple et exprimez les pensées qu'il mettra dans votre cœur, vous ne serez pas confondu devant les hommes. Car ce que vous devrez dire vous sera donné au moment même. Prêcher mon évangile nous rappelle à tous que rien ne se passe dans l'œuvre missionnaire tant que nous n'avons pas trouvé quelqu'un à instruire. Parlez chaque jour au plus grand nombre de personnes possible. Il est naturel d'éprouver une certaine appréhension à l'idée de parler aux gens. Mais vous pouvez prier pour avoir la foi et la force d'ouvrir la bouche avec plus de hardiesse pour proclamer l'Évangile rétabli. Vous, missionnaires à plein temps, si vous voulez enseigner davantage, vous devez parler à plus de gens chaque jour. Cela a toujours été ce que le Seigneur a envoyé les missionnaires faire. Le Seigneur nous connaît. Il sait que nous avons des épreuves. Je sais que certains d'entre vous peuvent se sentir lourdement chargés, mais je prie pour qu'aucun de vous ne sente jamais que tendre la main de manière naturelle et aimable pour parler de l'Évangile est un fardeau. En fait, c'est un honneur. Il n'y a pas de plus grande joie dans la vie que d'œuvrer avec zèle au service du Seigneur. La clé est d'être inspiré de Dieu, de lui demander quoi faire, puis d'agir selon l'inspiration de l'Esprit. Cela peut intimider les membres quand ils voient l'œuvre du salut comme étant leur responsabilité à eux seuls. Quand ils la voient comme une invitation à suivre le Seigneur en lui amenant des âmes pour qu'elles soient instruites par les frères et sœurs missionnaires à plein temps, c'est inspirant et édifiant. Nous ne demandons pas à chacun de tout faire. Nous demandons simplement à tous les membres de prier. sachant que si chaque membre, jeune et d'âge mûr, tend la main à seulement une personne d'ici Noël, des millions ressentiront l'amour du Seigneur Jésus-Christ. Quel merveilleux cadeau pour le Sauveur. Il y a 2 semaines, j'ai reçu une lettre d'une famille qui a beaucoup de réussite dans l'œuvre missionnaire, la famille Munn de Floride. Elle disait, « Cher frère Ballard, 30 minutes après l'émission mondiale sur athée l'œuvre du salut, nous avons tenu notre conseil missionnaire familial. Nous étions enthousiastes de voir que nos petits-enfants adolescents voulaient participer. Nous sommes heureux de vous dire que depuis notre réunion de conseil, nous avons augmenté de 200% le nombre de personnes que notre famille pourrait instruire. Nos petits-enfants ont amené des amis à l'église. Nous avons eu des réunions de Sainte-Cène avec certains de nos amis non pratiquants et nous avons aidé certaines de nos nouvelles connaissances à accepter de recevoir les leçons missionnaires. Une de nos sœurs non pratiquantes est non seulement revenue à l'église, mais elle a aussi amené de nouveaux amis. Personne n'a refusé l'invitation de recevoir les leçons missionnaires. Quelle époque formidable pour être membre de cette Église. Suivez les inspirations de l'Église. Suppliez le Seigneur avec ferveur. Impliquez-vous en faisant de votre mieux pour connaître le grand message du rétablissement de l'Évangile de Jésus-Christ. Je cite un autre membre qui a eu du succès dans l'œuvre missionnaire, Clayton Christensen. Si vous prenez, au sens figuré, une personne par la main, et la présenter à Jésus-Christ. Chaque fois, vous ressentirez profondément l'amour qu'est le Seigneur pour vous et pour la personne dont la main est dans la vôtre. Que Dieu vous bénisse, mes frères et sœurs, pour que vous trouviez la grande joie que l'on a quand on fait des miracles grâce à sa foi, comme on nous l'enseigne dans Moroni, chapitre 7. Le Christ a dit, si vous avez foi en moi, vous aurez le pouvoir de faire tout ce qui est utile en moi. Car c'est par la foi que les miracles s'accomplissent, et c'est par la foi que les anges apparaissent aux hommes et les servent. C'est pourquoi, si ces choses ont cessé, malheur aux enfants des hommes, car c'est à cause de l'incrédulité et tout est vain. Par expérience personnelle, je peux vous témoigner que le Seigneur entendra vos prières et que vous aurez de nombreuses occasions, à présent et dans les années à venir, de faire connaître l'Évangile de Jésus-Christ aux précieux enfants de notre Père Céleste. Je prie. Frère Manson, nous avons entendu votre message. Nous avons entendu l'importance d'aller chercher celui qui est perdu. Je prie pour que nous connaissions tous la grande joie qui découle de l'œuvre missionnaire. Au nom de Jésus-Christ, amen.
Our Father in heaven.
Notre Père céleste, nous nous venons devant toi avec beaucoup de reconnaissance dans le cœur à cause des instructions inspirées que nous avons reçues de prophètes, voyants et révélateurs, de tes serviteurs. Nous sommes reconnaissants, Père, de l'esprit que nous avons ressenti, qui a sanctifié nos âmes, notre âme. Nous te remercions de l'évangile rétabli de Jésus-Christ et pour la compréhension que nous en avons et le pouvoir du sacrifice expiatoire de ton Fils. Nous te prions, Père, afin que nous puissions aller de l'avant dans ces autres réunions, nous puissions être remplis d'espérance, de foi et de charité, et que nous écouterons les paroles des prophètes, ayant la foi d'agir avec fidélité pour partager l'Évangile avec tous ceux qui nous entourent. Nous te demandons de nous aider à être fidèles aux alliances que nous avons contractées. Et nous disons ces choses avec humilité au nom de ton Fils bien-aimé, notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Amen.
This has been a broadcast of the 100.
Vous venez d'assister à la 183e conférence générale d'octobre de l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours. Les orateurs étaient choisis parmi les autorités générales et les officiers généraux de l'Église. La musique de cette session était interprétée par un chœur familial composé de membres de pieux de Roy, Kensville, Hooper et West Haven en Utah. Cette émission a été diffusée à titre de service public par Bonneville Distribution. Toute reproduction, enregistrement, transcription ou autre utilisation de cette émission sans autorisation écrite est interdite.